Albin Wagner, bonjour.
Bonjour.
Vous expliquez dans votre livre que le changement climatique, c'est aussi une affaire de narration et que la linguistique doit jouer son rôle pour mieux lutter contre notre inaction collective. Car malgré les faits scientifiques clairs, avérés, la planète continue à se réchauffer.
Il y a les actions concrètes dont on a besoin. Mais on voit bien que, bah, pour l'instant, ces actions, elles ne prennent pas parce qu'on manque de récits. Et tant qu'on n'a pas de récits qui structurent ce rapport au réel par rapport à l'urgence climatique, bah, les actions, on le voit, malgré des décennies de recherche, bah, elles ont du mal à être mises en place, quoi. Que ce soit par les régimes autoritaires ou les régimes démocratiques. Enfin, tout le monde est quasiment logé à la même enseigne. Et donc, c'est vraiment, pour moi, le cœur, enfin, l'un des nœuds du problème, en tout cas, et l'un des facteurs explicatifs de l'inaction globale, en fait, sur l'urgence climatique.
Et à la fin de chaque chapitre, vous interpellez le lecteur avec de petits exercices à mener dans son quotidien. L'idée, c'est de prendre conscience de tous les discours qui peuvent exister dans le débat public.
Donc effectivement, le fait d'avoir des exercices, d'essayer de se confronter à ces discours-là, ça permet aussi de se dire, bon, dans ma vie quotidienne, comment est-ce que je peux repérer ces différents éléments de greenwashing, par exemple, de technosolutionnisme, et comment, en fait, tout ça, ça me sensibilise, en fait, à cette pluralité de discours et de récits, et comment, en prenant conscience de cette pluralité-là, je me dis, ok, je peux moi aussi participer à la création de nouveaux récits.
Alors, vous parlez de greenwashing, de technosolutionnisme. De quoi s'agit-il exactement? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples des différentes manières d'aborder le changement climatique?
Alors, le greenwashing, par exemple, c'est typiquement un discours dont le but est de donner l'apparence d'une prise de conscience par rapport à l'urgence climatique, alors qu'il y a un décalage avec les faits avérés. De l'autre côté, le climato-scepticisme va avoir pour objectif, pas toujours d'ailleurs de nier le changement climatique, mais de le minorer, ou de dire qu'il n'est pas d'origine humaine. Enfin voilà, donc on essaie en fait de trouver des astuces pour essayer d'éviter de regarder finalement les chiffres en face et les évidences scientifiques en face. Et il y a en fait des discours qui essaient de s'attaquer en fait aux conséquences du changement climatique sans jamais toucher aux causes. Typiquement les discours technosolutionnistes. On se dit que finalement c'est l'ingénierie, les nouvelles technologies qui vont permettre de trouver des solutions pour résoudre le changement climatique et que ça nous permettra finalement de pas changer grand chose. Là on a par exemple toutes les évolution autour de l'avion vert, je mets des guillemets, donc un avion qui serait propre, alors que ben, on voit bien que l'aviation représente quand même un pourcentage non négligeable des émissions de gaz à effet de serre, et que qu'il soit vert ou pas, ça pose quand même des questions d'habitude de vie et justement à changer. Donc. Dans les solutions, on a aussi le colibrisme, je pense au petit colibri en fait, hein, c'est vraiment ça. Le discours il consiste à dire que finalement tout va reposer sur les changements individuels. C'est évidemment d'une part assez naïf, et surtout il y a des changements qui nécessitent des politiques très ambitieuses, de politiques publiques vraiment générales, et de coordination entre États.
Oui, ça permet aux politiciens, par exemple, de se dédouaner, d'agir.
De se défausser, tout à fait. Ouais, ça permet vraiment d'aller, de tout faire reposer sur les individus, de se dire, bon, ben voilà, vous avez qu'à changer de mode de vie, et ce sera bon. Donc, en fonction de ces différents types de discours, il y a différents types d'acteurs, différentes manières de s'adresser aussi aux autres, et surtout derrière, différents sous-entendus. Et tous ces récits, finalement, nous engagent à voir le changement climatique de telle ou telle manière. Et ça nous conditionne, finalement.
Comme la sobriété, on a l'image que la sobriété, c'est quelque chose forcément de négatif, on va être privé, il va y avoir un manque de confort, alors qu'en fait, pas forcément.
Pas forcément, mais le problème, c'est que dans les choix, encore une fois, des mots, les choix terminologiques, comme on les appelle, les choix de mots disent beaucoup de choses sur la façon de penser. On parle de décroissance, donc on sort de la croissance. Décroître, c'est régresser dans l'imaginaire collectif, en tout cas, c'est ce qui est sous-entendu. On a plutôt des mots positifs pour caractériser le modèle économique dans lequel on est en général. Croissance, abondance, etc. Là, sobriété, décroissance, des termes qui vraiment, en fait, ne sont pas basés sur quelque chose qui est positif et qui fait envie. Et de ce point de vue-là, c'est pour ça aussi que qui dit nouveau récit dit aussi création de nouveaux mots. Alors, cette affaire, tout ça, enfin, je veux dire, il y a vraiment un chantier énorme. Parce que même si on a des solutions techniques, même si on sait exactement ce qu'il faut qu'on fasse, puisque les chiffres sont quand même alarmants depuis des décennies, hein, c'est pas quelque chose qui est sorti l'année dernière, on voit bien que ces chiffres ne suffisent pas pour motiver les décisions, ou pour motiver les décisions politiques, ou pour motiver les changements de comportement individuels.
Albin Wagner, merci beaucoup.
Merci à vous.